Laudetur Jesus Christus.
Mais spéciale pour la santé du pape flegmatique accrédité près le Saint-Siège. Le pape François hospitalisé depuis 4 semaines, jour pour jour. Son état reste stable. Il a passé une nuit tranquille. Nous entendrons les mots du cardinal Pietro Parolin. Fin de la mission militaire des pays d'Afrique australe en République démocratique du Congo. Nous irons dans l'est du pays où les combats se poursuivent malgré l'annonce des pourparlers directs entre Kinshasa et M23. Un accord de paix trouvé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. De nombreuses embûches subsistent toutefois avant une paix durable. Analyse à suivre. Et puis jour d'investiture au Canada, sur la table du nouveau Premier ministre libéral, les financements aux organisations religieuses menacées. Explication en fin de journal.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonjour, cela fait un mois, jour pour jour, que le pape se trouve à l'hôpital Gemelli de Rome pour soigner sa double pneumonie. Les dernières nouvelles indiquent à la mi-journée un état de santé stationnaire. La nuit a été calme et François a de nouveau suivi les exercices spirituels de carême pour la curie par liaison vidéo ce matin avec la salle Paul VI. Le pape a poursuivi aussi ses thérapies prescrites, dont la physiothérapie motrice. Dans l'attente d'un nouveau bulletin médical ce soir, une messe avait lieu ce matin en la chapelle Pauline du Palais Apostolique pour la santé de François. Présidée par le cardinal Pietro Parolin, elle avait été demandée par les ambassadeurs et diplomates accrédités au Vatican eux-mêmes. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a donc remercié les 184 membres du corps diplomatique pour cette initiative et a prié pour le pape. On l'écoute.
Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre.
Nous nous réunissons ce matin pour prier pour la santé du Saint-Père, afin qu'il se rétablisse et revienne bientôt parmi nous. Nous pensons également, puisque nous sommes le lendemain, au 12e anniversaire de son élection au pontificat, que nous avons célébré hier. Notre prière devient donc encore plus intense et plus vive. Et en quoi consiste principalement cette prière?
In che cosa consiste principalmente questa preghiera?
Il ne s'agit pas de faire une demande à Dieu, car il sait ce dont nous avons besoin. La meilleure façon de présenter nos prières à Dieu est, avant tout, de lui offrir un cœur, notre cœur, ouvert et attentif à ses paroles. C'est la clé qui ouvre le cœur du Seigneur, l'écoute cordiale de sa parole.
L'ascolto cordiale della sua parola.
Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a noté que la prière du chapelet pour le rétablissement du pape revient ce vendredi soir sur la place Saint-Pierre. Les fidèles ont rendez-vous à 19h30. Elle est conduite ce soir par les membres du dicastère pour la communication. En une de l'actualité internationale, cette annonce qui peut bouleverser les équilibres en RDC, les pays d'Afrique australe mettent fin à leur mission militaire dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à des combats contre les milices du M23. Dès hier soir, l'Organisation de coopération régionale a ordonné le retrait progressif des troupes. Les précisions de Franck Kaseya.
L'annonce de la fin du mandat de la SAMIR RDC déployée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis le 15 décembre 2023 intervient 2 jours seulement après l'annonce par le gouvernement angolais du début des négociations directes entre les responsables de Kinshasa et les rebelles du M23 AFC fixés au 18 mars prochain. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui est également pris part à ces sommets en visioconférence à partir de ses bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, a salué l'initiative de son homologue angolais João Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Malgré leur avancée sur terrain, les rebelles du M23 ont indiqué dans un communiqué leur disponibilité à participer au dialogue pour, selon eux, trouver une solution pacifique et durable à la crise actuelle. Depuis la ville de Kalemie en République démocratique du Congo, Franck Kaseya pour Radio Vatican.
Et les églises catholiques et protestantes de RDC saluent aussi dans un communiqué le début des pourparlers directs entre le M23 et le gouvernement congolais. Sur le terrain, face à l'avancée de groupes armés dans l'Est, une entreprise minière vient de suspendre ses activités d'extraction. Il s'agit de la 3e mine d'étain au monde en termes de production, celle de Bizi. Un pèlerinage inédit en Israël. Des druzes syriens ont passé ce matin la ligne de cessez-le-feu sur le Golan. Une première depuis 1948, non sans provoquer de tensions au sein de la communauté syrienne. Réunion tripartite sur le nucléaire iranien à Pékin. La Chine, la Russie et l'Iran réunis appellent à la fin des sanctions visant Téhéran, aux antipodes de la politique de pression maximale des États-Unis qui viennent de sanctionner le ministre iranien du pétrole. Et au chapitre des matières premières, l'or dépasse pour la première fois la barre des 3 000 $, une valeur refuge prisée face aux craintes géopolitiques et d'une guerre commerciale après la menace de Donald Trump de surtaxer les importations de produits alcoolisés européens. Et l'émissaire spécial du président américain est chargé d'un message de Vladimir Poutine pour Donald Trump. Le Kremlin se dit ce matin prudemment optimiste après la rencontre du président russe avec Steve Witkoff. L'Union européenne, de son côté, renouvelle des sanctions individuelles contre des milliers de Russes ce vendredi. Des discussions ardues ont eu lieu avec la Hongrie notamment, qui s'oppose à cette prolongation. Après des décennies de guerre et des années de discussions, l'Azerbaïdjan et l'Arménie trouvent un accord de paix. Il est salué ce matin par l'Union européenne et la France. Reste à trouver une date et un lieu pour le signer, mais de nombreuses questions restent encore en suspens, comme nous l'explique Tigran Yegavian, chercheur à l'Institut chrétien d'Orient.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur des concessions acceptables par les deux parties, sachant que l'Azerbaïdjan ne pousse pas à une paix des braves, mais à une paix d'humiliation. Ça veut dire qu'ils exigent toujours plus de la partie de l'Arménie sur une capitulation à la fois sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, ça sous-entend un abandon de souveraineté dans le sud de l'Arménie, c'est-à-dire laisser un corridor extraterritorial qui relierait l'Azerbaïdjan à son territoire du Nakhitchevan, c'est-à-dire l'absence de tout contrôle douanier sur les camions azerbaïdjanais qui transiteraient par le territoire arménien. L'Azerbaïdjan exige de l'Arménie qu'elle abandonne toutes les procédures judiciaires, pénales, pour les crimes commis dans le Haut-Karabakh, pour la libération des prisonniers qui sont toujours maintenus détenus dans les geôles de Bakou. Et il y a aussi cette exigence de réformer la constitution arménienne de la part de l'Azerbaïdjan pour faire taire toute mention à l'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabakh, ainsi que la reconnaissance internationale du génocide.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Nouvel épisode d'affrontement ce matin en Birmanie. Une base militaire a été prise par des insurgés de l'armée nationale de libération Karen. Les soldats birmans ont fui en Thaïlande, aggravant la situation sécuritaire d'un pays en proie déjà à une grave crise humanitaire. Le programme alimentaire mondial se voit contraint de supprimer son aide à plus d'un million de personnes. Une conséquence directe des coupes américaines dans l'aide internationale. Investiture du nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney prend ses fonctions ce vendredi, succédant à Justin Trudeau. La guerre commerciale avec les États-Unis et les hausses de droits de douane décidées par Donald Trump dominent largement les débats publics. Un autre sujet d'une toute autre nature a été relégué au second plan ces dernières semaines. La menace du gouvernement libéral de retirer leur statut d'organisme de bienfaisance aux organisations religieuses canadiennes. Cela pourrait avoir un impact considérable sur leurs activités, comme nous l'explique Benjamin Boivin, journaliste au Verbe, un média catholique basé à Québec.
La clause 429 propose en fait de rendre impossible l'accès au statut d'organisme de bienfaisance et de tous les avantages fiscaux qui sont associés pour les organisations qui font la promotion d'idées anti-avortement, entre guillemets, si on veut utiliser le vocabulaire du gouvernement, c'est-à-dire des organisations qui ont une mission pro-vie comprise largement. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la clause 430, qui, elle, a probablement beaucoup plus d'impact sur la société canadienne. C'est une clause qui vise, en fait, à empêcher l'accès à ce statut d'organisme de bienfaisance et tous les avantages fiscaux qui sont associés à toute organisation dont la mission est de faire la promotion ou l'avancement de la religion. Donc ça concerne au Canada plusieurs dizaines de milliers, en fait, d'organismes. Ça concerne des églises, des paroisses, en fait, des mosquées, des synagogues, toutes sortes d'organisations religieuses qui peuvent notamment offrir à leurs donateurs des reçus d'impôts pour charité, c'est-à-dire que le gouvernement va rembourser une partie des dons que les particuliers vont faire, de manière finalement à encourager l'activité caritative dans la société canadienne. C'est vraiment une politique qui concerne toutes les religions, pas seulement l'Église catholique. Ce sont des politiques qui préoccupent beaucoup de gens.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. L'actualité du pape et du monde revient sur nos ondes ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, passez une très belle journée.